Le journal Jacques-Yves Molima.
Les humanitaires vont au secours de la population des Kakenge après l'accident du train la semaine dernière. Des chlores pour la purification d'eau afin de prévenir d'éventuelles épidémies sont en train d'être acheminés sur le lieu de l'accident. Démarrage de la troisième phase de désarmement, démobilisation et réinsertion des ex-combattants en Ituri. Une fausse note, très peu de miliciens ont répondu à l'appel et pour cause de la difficulté créée par le principe « un homme, une arme ». Flambée des prix des denrées alimentaires à Funguru, mais localité située à 200 km de Lubumbashi au Katanga. Principale cause, pluies abondantes et exode des paysans qui abandonnent l'agriculture pour s'adonner à la recherche des minéraux. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Suite de l'accident du train au Kasaï occidental, pour éviter que les épidémies n'éclatent parmi la population, les agences humanitaires, par le truchement de l'UNICEF, décident d'envoyer ce lundi au lieu du drame un lot important des médicaments pour la chloration de l'eau. En fait, la population des Kakenge s'approvisionne en eau dans la rivière Luembe située non loin de l'endroit où s'est déroulé l'accident de train la semaine dernière. Le point avec André Kambala.
La population locale habituée à consommer les eaux de cette rivière reste exposée. Les eaux qu'elle consomme contiendront bientôt toutes les matières en décomposition sur le lieu de l'accident situé à une vingtaine de mètres en amont de la rivière. Il s'agit des restes de corps de fosses communes précipitamment creusées, de ceux de corps coincés entre les wagons et même en dessous de wagons couchés, sans oublier les produits alimentaires éparpillés par-ci par-là. Ce train de mesure a été arrêté pour assainir le milieu. Selon le docteur Félicien Molima, chef de bureau de l'UNICEF Kananga, la remise de ces chlores sera précédée de la sensibilisation de la population. Déjà, les techniciens de la CNTC sur chantier se disent exposés à des odeurs nauséabondes de corps. Ils utilisent de parfums et l'encens traditionnel pour s'en passer. Les agences humanitaires ont mis en place un comité de crise chargé de coordonner les différentes interventions. Parmi les assistances annoncées en plus bref, Caritas Allemagne a contribué à hauteur de 20 000 euros pour le carburant. Otia amène 2 tonnes de médicaments. Les autres agences offre des dons divers. Les dons du gouvernement, médicaments et nourriture est en train d'être acheminés sur place depuis le samedi. De Kananga, André Kambala, Radio Okapi.
Sachez que le deuil national de 3 jours décrété par le gouvernement en mémoire des victimes de cet accident de train prend fin ce lundi sur l'ensemble du territoire national. L'inhumation ce lundi du professeur Samba Kaputo, conseiller spécial du chef de l'État en charge de la sécurité, est décédé mercredi 1er août dernier en Afrique du Sud. Ce dimanche, au palais du peuple, le président de la République, celui de l'Assemblée nationale et le vice-président du Sénat, ainsi que le membre du gouvernement et autres personnalités politiques, ont rendu un dernier hommage à l'illustre disparu. Au cours de la cérémonie, Bagaya Mukwe, représentant de l'Association pour la défense de la ville de Bukavu, est revenu sur les qualités intellectuelles et morales du défunt. On l'écoute.
Il s'appelait excellent pour avoir brillé non seulement par ses qualités exceptionnelles d'élève appliqué, mais aussi par une conduite irréprochable. Il avait toujours été coté excellent, jusqu'à ce que cette mention habituelle de sa conduite soit devenue un surnom toute sa vie. Guillaume s'appelait lentement, de par son style de jeu au football. Pivot dans toutes les équipes où il avait évolué, il était l'organisateur de jeu avec des actions décisives. Des dribbles certes lents, mais combien déroutants qui ont fait de lentement l'un des meilleurs joueurs de la ville de Bukavu pendant toutes ses études secondaires et universitaires. Modèle d'honnêteté et de bonne gestion, bon vivant, intellectuel affirmé et doué d'un esprit alerte, de nature fraternelle et sociable, conciliateur infatigable auprès de qui la plupart d'entre nous trouvaient sages conseils et réconfort, Guillaume était réellement un mystère. À vous tous, et particulièrement aux membres de la DIB, nous saisissons cette occasion triste, hélas, pour vous exhorter de considérer le cursus de notre membre d'honneur et cher frère comme une référence et un modèle pour le meilleur devenir et la sauvegarde de notre idéal.
En Ituri, 15 combattants seulement ont été admis samedi au site de Bounia sur une cinquantaine attendue. Le lancement officiel de la troisième phase du désarmement, démobilisation et réinsertion DDR s'est confronté à certains problèmes d'ordre organisationnel. La plupart des 8 points de désarmement n'ont pas accueilli beaucoup de combattants comme l'espéraient les organisateurs. Les leaders des différents groupes armés évoquent notamment le problème posé par le principe « un homme, une arme » et l'insuffisance des moyens devant permettre le regroupement de leurs hommes. Le point avec Isaac Remoyope.
Les 15 combattants qui ont désarmé samedi aussi de Bounia proviennent des deux points de désarmement sur le 8 prévus pour cette troisième phase de PNDDR en Ituri. Tous ces miliciens sont issus de l'ancien groupe armé du MRC de Matiengou Diolo. Selon les chefs des opérations de la troisième phase, une quarantaine d'autres combattants parmi ceux qui se sont présentés samedi n'ont pas rempli les conditions fixées par les programmes. Il a indiqué que la plupart de ces miliciens étaient sans armes. Toujours selon lui, les noms d'autres miliciens n'ont pas été repris sur la liste déposée par leur leader. Au second site de Kwandroma, à 175 km au nord de Bounia, aucun combattant n'a été enregistré. Le colonel Peter Karim, ancien dirigeant du FNI, qui était invité à Bounia, a promis d'envoyer ses hommes ce lundi sur place au site. Du côté du FRPI de Kobamatata, la liste n'est pas encore envoyée à Bounia pour approbation par les autorités militaires des FARDC. Tous ces leaders des anciens groupes armés de l'Ituri indiquent que la plupart de leurs hommes ne disposent pas d'armes. Ils demandent aux autorités compétentes de revoir les principes un homme, une arme pour la réussite de ces opérations de désarmement. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, les personnes vivant avec handicap disent non à la guerre et à l'insécurité permanente dans la province et plus particulièrement en territoire de Rutshuru. Ces personnes qui sont réunies au sein d'une organisation dénommée Association pour l'intégration sociale des handicapés physiques ont lancé ce message lors des manifestations de deux jours à Goma. Selon la présidente de cette association, les guerres et l'insécurité font augmenter le nombre des handicapés physiques au Nord Kivu. Ils interpellent donc les autorités à multiplier les efforts pour la recherche de la paix durable dans la région. On écoute Hortense Maliro, président de cette association, au micro de Moïse Mutunga.
Vous voyez, sans la paix, avec la guerre, le nombre des handicapés augmente, et physique, et psychologique. Comment est-ce qu'on va se développer pendant qu'on subit toujours les violences, et l'insécurité, les guerres? Donc, c'est quelque chose de très, très capital. Nous demandons aux autorités de faire leur tout possible pour que la sécurité, la paix retourne dans les pays. Que tout Congolais rentre chez lui et en sachant que quand il rentrera chez lui, il trouvera une paix. Il ne sera pas dérangé par qui que ce soit et il sera là pour travailler et pour développer les pays.
8h07 à l'est du pays, hausse du prix de maïs et des haricots à Fungurume, localité située à 200 km au nord-est de Lubumbashi. Un petit seau de haricots se vend désormais à 1400 francs congolais au lieu de 800 francs congolais habituellement. Celui de maïs est passé de 200 à 380 francs congolais. Selon le chef de cité, cette situation est la conséquence des pluies abondantes qui inondent les champs. François Kapenda parle aussi du phénomène d'exode des paysans qui ont abandonné l'agriculture pour s'adonner à la recherche des minerais, des cuivres et des cobalt. François Kapenda est joint au téléphone par Colin Djouma-Moussampo.
Il y a eu excès de pluie cette année. Les gens ont travaillé comme d'habitude, mais les précipitations n'ont pas été clémentes pour cette année. Alors aujourd'hui, il se fait que le prix est déjà monté et nous ne savons pas ce qu'adviendra d'ici les périodes des soudures parce que c'est généralement 11e mois, 10e mois et 12e mois qui sont les mois de soudure chez nous. Or, on constate que les gens qui, nos amis qui viennent de Kassai acheter des produits à vivrier, notamment haricots et maïs, cette année ils ne sont pas venus. Pourquoi? Parce que les récoltes n'ont pas été bonnes. Que même l'argent ne circule pas comme d'habitude.
Toujours au Katanga, les gouvernants, les élus du peuple, la société civile et les confessions religieuses s'engagent à travailler ensemble pour la reconstruction de la province cuprifère. Cet engagement est contenu dans un accord de partenariat qu'ils ont conclu samedi dernier au monastère de Kiswishi, situé dans la périphérie de Lubumbashi. Témoin de l'événement, Paul Kabouba.
Au nom des confessions religieuses, l'archevêque de Lubumbashi a demandé au gouvernant de s'atteler immédiatement à la reconstruction de la province. Pour Mgr Songa Songa, il est étrange de constater que les partis politiques et la société civile brillent par leur absence alors que les institutions sont déjà mises en place.
Il est paradoxal, sinon étrange, que la société et les partis politiques qui, depuis de longues années, ont lutté pour l'avènement de la démocratie dans notre pays, s'éclissent et brillent par l'inertie et l'atomisation.
Représentant l'Assemblée provinciale, Antoine Moussenga Muzumbi, rapporteur de cette institution, a invité tous les dirigeants au travail, car selon lui, à la fin de cette législature, le peuple pourra poser des questions.
Le souverain primaire ne nous posera-t-il pas des questions du genre? Qu'avez-vous fait des infrastructures routières? Avez-vous donné de l'emploi à la population? Combien de logements avez-vous construits et aménagés?
Yav Tibal, vice-gouverneur du Katanga, a estimé que la seule façon de réussir est de changer de méthode en instaurant la transparence et la bonne gouvernance. La société civile, quant à elle, a appelé les gouvernants et les élus à faire en sorte que les richesses de la province profitent au pays. Lubumbashi, Paul Kaboba, Radio Okapi.
Au Bas-Congo, 329 175 enfants ont été vaccinés dans les 17 zones de santé sur 350 000 enfants attendus. Ce résultat ressort de l'évaluation faite ce week-end à Matadi par le comité de vaccination de la deuxième phase de la campagne de vaccination contre la polio. Cette campagne transfrontalière synchronisée concernait la République démocratique du Congo, l'Angola et la Namibie. Une campagne qui n'a pas manqué de rencontrer quelques difficultés. Selon le docteur Firmin Mampouya, coordinateur provincial du programme élargi de vaccination Bas-Congo, outre la résistance dans certaines familles, les équipes de vaccinateurs ont également rencontré d'autres difficultés d'ordre matériel. Le docteur Firmin Mampouya est au micro de Danny Kindanzita.
Les difficultés que nous avons rencontrées, effectivement, il y en a eu. Le nombre de personnel qui devrait vacciner au point de passage au niveau des frontières, les supports d'information. Et cette fois-ci, nous n'avions pas eu recours à ces supports dans les marquages des enfants pour la simple raison que nous n'avons pas bénéficié de l'encre indélébile comme c'est souhaité en pareille circonstance. C'était très difficile pour ceux qui devraient faire le contrôle des enfants vaccinés et ceux qui n'étaient pas vaccinés. En termes de carburant, par exemple, il y a eu une insuffisance à carburant.
Second tour des élections législatives au Congo-Brazza, c'était hier dimanche, 84 circonscriptions électorales étaient concernées par ces élections. Un scrutin entaché de quelques problèmes d'ordre organisationnel, plusieurs électeurs ont voté avec des anciennes cartes sur l'appel de la commission électorale de Brazzaville, une correspondance de Arsène Sévérin.
Partout sur l'ensemble du pays, le constat a été le même. Très peu d'enthousiasme des électeurs en allant aux urnes. Si les populations s'étaient un peu déplacées en matinée, elles se sont très vite découragées à cause de la confusion des listes électorales. À Pointe-Noire, par exemple, les électeurs de Luandili ont vu leur nom se retrouver très loin à Mongonkamba, une situation vécue également à Bas-Congo et à Talangaï, les quartiers de Brazzaville. La non-distribution des cartes d'électeurs a également découragé de nombreux électeurs. Seuls les fidèles des fidèles ont vogué d'un centre de vote à un autre pour voter. Mais dans l'ensemble, le scrutin s'est déroulé dans la quiétude. Le dépouillement a commencé juste après, sous les bougies et les lampes torches. Et ces élections sortiront, 84 députés de la future Assemblée nationale portent de 135 sièges. Afin de s'éveiller à Brazzaville, Radio Capi.
Une note sportive dans cette édition du journal parlé. Le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi a battu hier dimanche au stade des Martyrs à Kinshasa la formation camerounaise de Astre de Douala. Score du match 2-1. C'était dans le cadre de la deuxième journée des quarts de finale de la Coupe de la Confédération africaine de football. Le point avec Sylvie Meya.
La formation du tout-puissant Mazembe s'est relancée dans la course pour la finale de la Coupe de la Confédération africaine de football en battant cet après-midi au stade des Martyrs les Astres de Douala du Cameroun sur le score de 2-1. But inscrit par le buteur maison Poutouma Bitrésor à la première minute sur pénalty. Le même Poutou va donner la victoire au sien d'une superbe reprise de volée à la 60e minute. Les Camerounais avaient bien réagi en égalisant à la 14e minute par les joueurs Anya Akanga. Avec 3 points sur 6, Mazembe accueillera dans 2 semaines le Cercle Sportif Sfaxien, leader du groupe A avec 4 points.
Un mot sur l'international, le pourparler entre plusieurs factions rebelles du Darfour ou est du Soudan visant à tenter d'unifier leurs positions en vue des négociations de paix avec le régime de Khartoum ont été prolongés jusqu'à ce lundi, a-t-on appris dimanche auprès de participants entamés vendredi à Arusha, nord de la Tanzanie, sous l'égide de l'ONU et de l'Union africaine. Cette rencontre devrait initialement s'achever dimanche. Oui, factions rebelles du Darfour sont représentées par leur chef politique et militaire à cette rencontre, la première à réunir autant de chefs rebelles depuis l'accord de paix du Darfour signé en mai 2006 à Abuja.